le pourquoi de ce webinaire.
Voilà, donc après toutes nos excuses pour ces problèmes techniques et ce retard impardonnable, mais comme dit Fabien, on apprend de tous nos problèmes et on a appris plein de choses. Donc voilà, l'objectif de ce webinaire, alors on va d'abord peut-être se présenter. Alors de gauche à droite, là dans mon écran, j'ai Catherine Massico à gauche, peut-être juste quelques mots Catherine. Bonjour Catherine.
Bonjour à tous.
Donc Catherine qui fait partie de l'équipe des Twictonautes. Aujourd'hui on est quatre. Par la suite, on verra comment on gère ces webinaires. L'objectif, c'est vraiment qu'on se passe la main au fur et à mesure. On vous expliquera ça dans la suite. Christelle, coucou Christelle.
Coucou.
Donc, Christelle, qui est aussi là pour ce premier webinaire. On a Fabien qui a déjà bien parlé, donc vous le connaissez parfaitement. le Manitou de Twicté. Donc, le warm-up et les objectifs de ce webinaire. Donc, pour nous, l'objectif, c'est de répondre aux questions. On a reçu beaucoup de questions auxquelles il est difficile de répondre individuellement. Alors, si je lis dans les notes de l'émission, on a eu Marie, on a eu Amina, on a eu Delphine, on a eu Claude en Belgique, on a eu Soraya en Algérie. Donc, beaucoup de demandes et on s'est dit que c'est l'occasion de répondre à tout ça parce que vous êtes nombreux à vous poser des questions et c'est normal. Et d'y répondre par des vidéos sous forme de webinaire, ce serait intéressant parce qu'elles seront accessibles ensuite aussi par tout le monde. Que ce soit en vidéo, on vous mettra même ça en audio. Les objectifs, donc, c'est permettre aux internautes et aux twictonautes qui voudraient se lancer de comprendre la twicté et là, tout de suite, là, d'interagir avec les membres de la communauté, avec nous, mais aussi avec ceux qui sont en train de visionner ce webinaire via les commentaires. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous, on a prévu un fil de l'émission pour présenter les choses, mais l'objectif vraiment, c'est de répondre à vos questions. Donc, plus il y aura de questions, plus ce sera vivant et réactif. Fréquence et durée de ce webinaire, on s'est dit que 1 heure grand maximum, c'était bien parce que une vidéo de plus d'une heure, c'est difficile à suivre. Vous aurez aussi la version audio ensuite. Et la fréquence, peut-être une par période. On verra en fait selon les besoins et selon vos questions, la fréquence et on trouvera sans doute une formule à peu près idéale pour tout le monde. Donc là, l'objectif, c'est ça. Ce sont ça les objectifs. Et nous, dans notre déroulé, on va présenter le dispositif Twicté, les fondements didactiques et quelques outils de base pour le Twictonaute. Vous aurez compris que ce premier webinaire, comme son titre l'indique, c'est « Comprendre et se lancer dans Twicté ». Donc, on va dire qu'on repart des bases, Fabien.
On repart des bases. Alors, je voudrais remercier les 19 personnes qui sont en train de visionner le webinaire. D'après le fil Twitter de Twicté officiel, je me rends compte que ce ne sont pas que des noobs et que des sympathisants curieux nouvellement arrivés dans le dispositif. Il y a beaucoup de masters qui sont présents, on les remercie, ça nous donne l'occasion vraiment d'être au plus près d'eux. Sur les commentaires, Régis, je suis logué depuis mon compte YouTube et je ne vois pas l'ensemble des commentaires des personnes pour l'instant. Donc, je ne sais pas si les personnes qui visionnent n'ont pas encore posté sur le fil YouTube. Si, ouais. Tu vois les posts.
Oui, je vois Muriel, je vois Fabien Aubard, je vois Amina, je vois Romance. Donc,
d'accord, parce que moi, je ne l'ai pas, mais peut-être qu'il faut que je me logue avec un autre compte. Pour l'animation, du coup, peut-être qu'on peut inverser, hein, Régis. Si toi, tu vois, moi, je peux faire l'animation du webinaire et puis toi, faire l'animation via le fil YouTube. On peut inviter tous les gens qui sont en train de visionner actuellement de poster les commentaires essentiellement sur YouTube. Est-ce que ça te va?
Ça me va. Moi, okay. J'arrive à les suivre ici.
On est de toute façon, on a l'appui et quel appui de Catherine et Christelle. Toi, je te laisse répondre sur le côté, puis faire un peu, tu sais, comme dans les émissions, là, quand tu as quelqu'un qui dit oui, on a une question de madame, ça peut être sympa. Est-ce que ça vous va comme ça, comme organisation?
Très bien.
Alors, on a un premier point qui concerne la présentation du dispositif, la Twicté. Qu'est-ce que c'est, Catherine, Christelle? Est-ce que l'une de vous deux veut bien se lancer pour répondre à cette première question assez ardue, hein, assez générale, mais du coup, pour donner les contours de ce dispositif?
Alors, je commence. Christelle, tu complètes. Donc, la Twicté, c'est un dispositif collaboratif d'apprentissage et d'enseignement de l'orthographe qui passe par le réseau Twitter ou BabyTweet, voilà, il y a le choix. Ça fonctionne, les enfants vont collaborer, les enseignants également, pour pouvoir écrire une twicté, une dictée sur Twitter en 140 caractères. Le but de cette dictée va être ensuite la correction des dictées envoyées par les différentes classes et en écrivant des tweetis, petites règles orthographiques, également en 140 caractères. Christelle, tu peux compléter peut-être?
Mais c'est parfait, tu as tout dit.
Là, c'était résumé.
Ouais, alors je vais juste compléter quelque chose parce que je me rends compte au gré de nos interventions qu'il y a parfois une ambiguïté, en tout cas une espèce de schizophrénie autour des objectifs de ce dispositif. Là, tu as parlé des enfants. Moi, je parle souvent des adultes puisque contrairement à toi, Catherine, je ne suis plus en classe et plutôt dans un souci d'accompagnement. Twicté, ça dépasse un dispositif qui voudrait permettre aux enfants de développer leurs compétences orthographiques, mais qui permettrait aussi aux enseignants de façon collaborative. Peut-être un peu pompeusement, on dit souvent de façon autocatalytique, de se former entre nous, sans injonction, sans préconisation, plutôt par le biais de la curiosité partagée, par l'envie de développer notre engagement et notre expression pédagogique. Donc Twicté, c'est surtout ce dispositif qui permet aux élèves de pratiquer différemment l'orthographe et de développer leurs compétences. J'ai envie de dire, c'est un endroit où on se retrouve entre praticiens, mais pas que des praticiens. Il y a des formateurs, il y a des cadres qui sont intéressés, puis il y a des professionnels qui viennent d'autres horizons, d'autres champs de compétences et d'expertise qui nous rejoignent pour qu'on réfléchisse tous ensemble à ces questions de l'orthographe, mais j'ai envie de dire bien au-delà de ces questions d'orthographe. Nous, on a encore appris ce soir grâce à Twicté, Régis ne dira pas le contraire, on a appris comment lancer un webinaire en live après des invitations multiples et des tests multiples. N'hésitez pas à poser vos questions. Hein. Si vous avez des questions pour nous faire préciser, on voit ça ensemble et puis Régis se charge de commenter. Les fondements didactiques, les filles, je sais que vous les connaissez bien, et j'ai envie de dire bien mieux que nous. Alors, d'où est-ce qu'elle vient, cette tweetée ?
À toi, Christelle.
Ah oui, forcément.
À moi. Ben voilà. Cette tweetée, elle s'appuie sur plusieurs principes. Alors attends, parce que du coup tu me prends.
Alors je prends et puis tu vas compléter.
Voilà, je vais compléter.
On a l'habitude de dire souvent que le dispositif Twicté, c'est un dispositif qui est extrêmement didactisé. On ne le fait pas seulement pour se défendre d'une quelconque accusation de gadget pédagogique, parce que c'est vrai que tous les éléments sont réunis pour y voir un gadget pédagogique. Twicté est né d'un bouquin qui a été écrit par deux chercheurs, avec un ES à la fin, hashtag accord GN, qui sont Daniel Kogis et Catherine Brissot, qui sont deux chercheurs en didactique de l'orthographe, qui ont publié il y a de ça 4 ans un bouquin, normalement c'est là où Catherine le sort, qui s'appelle, ou Christelle le sort,
ouais. Je me balade avec.
Qui s'appelle « Comment enseigner l'orthographe aujourd'hui » aux éditions Hatier. J'ai oublié le nom de la collection. Et c'est vrai qu'en feuilletant, et plus qu'en feuilletant, hein, en découvrant les pistes qui ont été proposées par ces deux chercheurs pour savoir qu'est-ce qui était opérant aujourd'hui en termes d'enseignement de l'orthographe, on s'est rendu compte, je dis nous qui étions déjà des veilleurs pédagogiques sur Twitter ou qui avions déjà utilisé Twitter dans le cadre d'une tweet class, que Twitter, que ces petits messages en 140 caractères, que ce soit dans le cadre d'une dictée en 140 caractères ou dans le cadre des Twitties dont on reparlera un petit peu plus tard, pouvaient répondre à l'ensemble des préconisations, des pistes qui étaient proposées par ces chercheurs, des pistes didactiques, mais pas que, hein, puisque ont été associés à cet ouvrage des cognitivistes, je pense notamment à Michel Fayol, qui lui aussi est un spécialiste de la question de l'orthographe, mais plutôt du côté des sciences cognitives et de la psychologie cognitive, et puis Jean-Pierre Jaffray, qui est lui un linguiste, l'ensemble de ces pistes coordonnées, les quelques éléments pédagogiques qui sont proposés dans le bouquin nous ont fait dire que peut-être que si on utilisait Twitter et qu'on synthétisait tous ces éléments de recherche qui étaient proposés, ben ça pouvait donner quelque chose qui n'était pas inintéressant.
J'ai rajouté, on passe en revue les 5 principes, je les ai mis dans les notes de...
Je sais que tu adores les dire, alors vas-y,
on va répéter. Elle résume bien les choses. Donc le premier point, c'est différencier connaissance et mise en œuvre. Donc Daniel Kogis et Catherine Brissot disent que c'est un des points fondamentaux, en tout cas des 5 points qu'elle dégage. Donc les élèves en général, ils connaissent les règles, ils savent appliquer les règles, qu'on fait notre belle leçon avec notre belle série d'exercices, par exemple sur les homophones, comment ne pas confondre tel et tel homophone, ou sur les terminaisons au présent par exemple, ils connaissent les règles. Sauf que entre connaître la règle et la mettre en œuvre en situation de dictée ou de production écrite, bah, c'est deux choses très différentes. Donc, il faut déjà être conscient de ça. Ça, c'est le premier point. Qui enchaîne sur le deuxième, Fabien ?
Le deuxième point, c'est bien distinguer les processus et les habiletés cognitives qui vont être mises en jeu par l'apprenant dans le cadre de l'orthographe grammaticale et dans le cadre de l'orthographe lexicale. On est vraiment sur deux champs qui sont différents, qui font appel à des compétences qui sont différentes, à des habiletés cognitives qui ne vont pas chercher au même endroit, donc, et qui ne requièrent pas la même vigilance, la même attention, la même mémoire. Donc, le dispositif Twicté a été pensé dans un premier temps d'abord pour travailler l'orthographe grammaticale et les apprentissages en orthographe grammaticale. Donc, deuxième point, différencier les processus d'apprentissage pour l'orthographe grammaticale et pour l'orthographe lexicale. Un troisième point.
Troisième point, établir une progression. Voilà, vraiment que l'apprentissage de l'orthographe se fait vraiment en lien avec une progression bien établie. Que dire de plus par rapport à ce point-là ? Vous avez d'autres choses à ajouter ?
Moi, ça me fait penser à plusieurs choses, hein, cette idée de progression. C'est le fait que rapidement, toi, Catherine, dans le dispositif, tu as introduit les échelles de fréquence lexicale pour qu'on puisse réfléchir au texte consensus. Donc, le texte consensus, en quelques mots, parce qu'on va y revenir, c'est ce texte qui est produit par chacun des Twictonautes dans le cadre de chaque épisode. On aime bien parler de nanopédagogie, nous, ou plutôt là, de nanodidactique. C'est-à-dire que 140 signes, on peut vous dire que chaque mot, chaque signe est pesé par l'ensemble des Twictonautes qui collaborent à la construction de ce texte consensus. Il est très court, mais c'est vraiment un condensé de didactique de l'orthographe. Donc, la progression, elle est aussi au niveau de la construction de ce texte consensus où on peut faire appel à des fréquences, à des échelles de fréquences lexicales, qu'elles soient officielles ou qu'elles soient plus officieuses parce que vous connaissez bien vos classes. Et souvent, c'est un commentaire qu'on voit revenir dans les documents de préparation où ça me semble compliqué pour mes élèves, c'est un champ lexical qu'on n'a pas abordé avec eux. Donc les choses se régulent. Et puis pour parler de régulation, eh bien dans ces textes, dans ces documents de préparation, on voit aussi dans un phénomène assez naturel que les progressions des uns et des autres tendent à s'harmoniser autour des épisodes de Twicté, puisqu'on a envie de soit de retrouver un élément d'orthographe grammaticale qui a été déjà vu dans l'épisode précédent, soit on se dit là il est peut-être temps d'introduire quelque chose, ou peut-être à l'insu de chacun des participants, on va voir arriver un phénomène grammatical ou d'orthographe grammaticale qu'on n'aura pas vu avec les élèves, mais la Twicté sera à ce moment-là une occasion pour introduire ce point. Donc voilà, des progressions qui sont bien pensées, et j'ai l'impression qu'elles se pensent bien dans le cadre de cette réflexion collaborative.
C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des teams en fonction du niveau des classes et les enseignants peuvent s'inscrire en fonction des besoins de leurs élèves et surtout également du niveau de leurs élèves. Les dictées, bien entendu, sont adaptées aux besoins et au niveau des enfants.
Je voulais juste accueillir Julie, voilà, je fais un peu d'animation de communauté, 25 personnes en ligne, on vous remercie d'être là. Je vous rappelle que c'est toujours le premier webinaire Twicté pour bien comprendre les contours de ce dispositif. On est en train de parler des principes de l'orthographe qui ont fondé le dispositif. On a déjà vu trois points, progression, mise en œuvre et apprentissage, orthographe grammaticale, orthographe lexicale, un quatrième point.
Christelle ?
Pratiquer une évaluation positive. oui, pratiquer une évaluation positive, ne serait-ce que par la manière dont le dispositif est construit déjà. L'élève travaille avec les autres, travaille sur ses erreurs certes, mais n'a pas forcément l'impression de travailler sur l'erreur, plutôt en train d'être acteur de son apprentissage, d'y mettre du sens. Il travaille avec d'autres classes partout dans le monde, enfin... C'est quelque chose d'assez positif parce qu'on ne va pas venir pointer l'erreur, mais plutôt la sublimer, venir la corriger et venir aller la décortiquer pour l'analyser. Ils n'ont pas l'impression que ce soit négatif tout ça, mais qu'au contraire, ça va servir tout le monde. Ensuite, l'évaluation positive également, par exemple, à la fin, une fois que les élèves ont corrigé leur Twicté, Catherine avait déjà proposé une grille d'évaluation positive où, en fonction des balises d'erreurs qui avaient été faites, les élèves pouvaient relever leurs erreurs, pouvaient analyser les erreurs et les balises, les catégories d'erreurs pour lesquels ils avaient fait le plus d'erreurs, ou pour lesquels ils pouvaient progresser, ou au contraire, dans lesquels ils avaient progressé. Le but, c'est d'avoir une réflexion là-dessus, sur la progression qu'ils ont, et que tout ça soit positif pour progresser, justement.
Les 140 caractères, vraiment, ont le but de valoriser les élèves, de les rassurer avec les dictées, parce que souvent, ils le vivent plutôt… Voilà, souvent, c'est assez angoissant, la dictée, surtout lorsqu'elle est longue. Le dispositif, en mettant 140 caractères, permet vraiment aux élèves de reprendre confiance en eux lorsqu'ils écrivent. Parce que, voilà, le texte est court. Ils le disent d'ailleurs très bien lorsqu'ils parlent de la dictée. Ils adorent faire des dictées ensuite parce que, voilà, il y a vraiment un côté rassurant et très valorisant pour eux. De plus, en effet, par la grille d'évaluation qu'on peut proposer à la fin d'une séquence tweetée, les élèves vont noter plutôt leurs réussites et pas leurs échecs. Donc, ça permet vraiment de valoriser aussi tout ce qu'ils savent faire et non pas pointer ce qu'ils ne savent pas faire. Et ainsi, ils peuvent également voir un peu les points de vigilance qu'ils auront à travailler, les catégories d'erreurs en fait qu'ils peuvent commettre et qui restent encore un peu fragiles pour eux, mais c'est toujours vécu plutôt très positivement.
Peut-être un dernier mot avant de passer au cinquième point. Ça va en adéquation avec le barème graduel de correction de dictée qui est préconisé depuis l'année dernière ou un an et demi. Et que vous retrouvez sur EduSchool, donc qui préconise justement de s'appuyer sur les points forts des élèves et non plus la bonne vieille dictée, comme peut-être vous et moi on l'a vécu quand on était plus jeune, où une erreur est égale à un point en moins et c'est tout, on en restait là. Là, on s'appuie sur l'erreur pour faire progresser les élèves. On va mettre peut-être le lien de ce fameux barème graduel proposé sur EduSchool, je vais le mettre dans les notes.
C'était un peu ce qui était déjà proposé en fait dans les évaluations nationales finalement. Les corrections dans les évaluations nationales n'étaient pas en fait une correction avec un nombre d'erreurs total sur la dictée, mais c'est vraiment classé en fonction, parce que des élèves peuvent être très à l'aise en fait en orthographe grammaticale et pas du tout en orthographe lexicale. Donc voilà, ça pointe vraiment de manière très précise les besoins des enfants.
Régis, tu voulais dire quelque chose ?
Non, je voulais qu'on passe au cinquième point.
Alors, c'était justement le cinquième point pour dire à tous ceux qui nous ont rejoints, mais là, on a tendance à perdre des Twictonautes. C'est peut-être la partie un peu théorique qui veut ça. On va essayer de clore rapidement. La dernière partie, qui est peut-être pas la plus importante, mais en tout cas celle à laquelle moi je tiens le plus, c'est celle de l'engagement intellectuel des élèves. Dans le cadre d'une dictée, Et j'ai envie de dire, alors là, c'est mon côté un petit peu dur avec la dictée négociée à qui la tweetée doit évidemment beaucoup, puisque on va vous rappeler que le premier temps de la tweetée, c'est avant tout un dispositif qui est très proche, en tout cas un fonctionnement proche de la dictée négociée. Dans la dictée négociée, ce qui m'a toujours surpris, moi, c'est le faible investissement de chaque élève. Je m'explique, on peut avoir 3-4 élèves qui prennent dans les phases orales spontanément, rapidement, de façon plus ou moins pertinente la parole pour expliquer telle ou telle erreur, mais on se rend compte que les élèves à l'attention la plus fragile, à la compréhension des phénomènes orthographiques la plus fragile également, ont tendance à ne pas se saisir complètement de cette phase de partage. Et c'est là où Cogis et Brissot ont eu une proposition intéressante, c'est celle de la justification écrite. Pour eux, les mécanismes cognitifs qui se mettent en place lors d'une justification écrite, quel que soit le problème qui est posé, permet un ancrage plus fort de l'apprentissage qui est visé. Et c'est un petit peu ce qui a inspiré les outils dont on reparlera plus tard. L'engagement intellectuel est un petit peu différent, on va dire, à un degré peut-être un peu plus élevé que celui d'une prise de parole orale en grand groupe. Là, il y a vraiment un investissement qui est demandé de la part de l'élève, un investissement qui est certainement plus personnalisé, plus proche de ses besoins, mais aussi de ses compétences. Et c'est un des exemples qu'on donne sur l'engagement intellectuel des élèves. Et je pense que si vous n'avez rien à rajouter, il faut peut-être aller un peu plus loin et attaquer dans les dimensions très concrètes du dispositif, Régis.
C'est ça. Donc, on arrive là, on a passé en revue les 5 points, mais on vous recommande vraiment d'aller voir du côté du bouquin les 5 points pour apprendre l'orthographe aujourd'hui. On arrive au fonctionnement concret d'une tutée en classe. Je vais en dire quelques mots. Je vois que Catherine, tu veux…
C'est bon, oui.
Alors, Catherine, concrètement, une tutée en classe, Ah, elle s'en va. Non, bah, je me lance. Donc concrètement, les étapes d'une tuctée en classe, Catherine, je disais, tu te lances pour expliquer.
Alors, première étape. Alors, déjà, il y a une étape qui est hors tuctée, mais qui revient en fait à tous les enseignants qui participent, à tous les tuctonautes. C'est la phase vraiment de collaboration, de classe des maîtres virtuels, où les enseignants qui appartiennent à une team vont créer cette fameuse phrase de tuctée pour leurs élèves. Donc là, c'est vraiment en off, les enfants ne vivent pas ça, mais c'est une grande importance pour la tuctée. En ce qui concerne les élèves, première séance qui va être la séance de la tuctée, de manière assez traditionnelle, les élèves vont écrire la tuctée de manière individuelle, puis ils vont se mettre en groupe de 3 ou 4 élèves et ensuite vont négocier, se mettre d'accord, échanger, discuter, collaborer pour essayer d'écrire un texte pour leur groupe qui soit le plus juste possible. À la suite de cette dictée de groupe, ces tuctés sont donc envoyés en message privé. Pourquoi message privé? Parce qu'il reste certainement des erreurs en orthographe et la charte internet que les enfants ont signée avec leur enseignant préconise de ne pas envoyer d'erreurs sur Twitter. Donc c'est pour ça que par un Google Drive, un document partagé, les élèves vont pouvoir envoyer leur dictée à leur classe miroir. Première étape. Je continue?
Allez, j'enchaîne. Donc, deuxième étape, on va recevoir d'une classe, parce que ça fonctionne par trinôme, peut-être expliquer ce mot de classe crible, classe miroir. Concrètement, on fonctionne par trinôme, c'est-à-dire que, par exemple, ma classe va travailler avec la classe de Catherine, qui sera ma classe crible, qui veut dire écrire. Donc, eux vont m'écrire les tuctés pour lesquels je vais produire les toutis. Et moi, je vais écrire je vais envoyer mes dictées négociées de groupe à la classe de Christelle, qui sera ma classe miroir, pour un jeu de mots, qui va réfléchir comme un miroir, mais qui va réfléchir mentalement pour eux écrire les toutis de ma classe. Là, on arrive au cœur du dispositif avec ce fameux toutis dont on parlait, cette petite règle orthographique en 140 caractères. Alors, il s'agit de quoi concrètement? Il s'agit de, un, repérer les erreurs dans les textes de groupe que j'ai reçus, que ma classe a reçus. Les élèves vont devoir d'abord repérer les erreurs et vont devoir expliciter comment corriger cette erreur pour à la fois comprendre cette erreur eux-mêmes et ne plus la refaire. Mais je vais peut-être vous laisser poursuivre sur le toutis avant de continuer sur les étapes. Le toutis, Christelle, peut-être.
Le toutis, l'élément vraiment essentiel, et là c'est une étape très importante, et le toutis surtout canonique. Pourquoi un toutis canonique? Parce qu'on pense que pour que ce dispositif fonctionne et que la correction fonctionne, ils nous font des éléments essentiels. Ces éléments-là sont déjà des éléments de communication. On communique, on utilise Twitter. Donc, on s'adresse à une classe. Cette classe, on met son nom. Je ne sais pas si vous m'entendez.
Oui, si.
Ok. Ensuite, on met la correction de l'erreur. On va passer à la correction. Jamais on écrit de mots avec l'erreur orthographique. On écrit le mot correctement. Correctement écrit, voilà, avec sa correction. Puis ensuite, avec la petite correction, par exemple, élève, correctement écrit, prend un S. Puis ensuite, on va justifier. Cette justification, elle est importante. Elle va mettre en mots la raison de cette correction. Après cette justification, qui est vraiment essentielle puisqu'elle est l'explicitation de l'erreur. Après cette explicitation de l'erreur, il y a la balise, cette balise qui, sur Twitter, prend tout son sens, mais également avec justement la base théorique qui est l'ouvrage de Cogis et Brissot, qui est la catégorisation de l'erreur. Cette balise va venir catégoriser la justification et donc l'erreur. Donc, la justification ne va pas sans la balise. Il y a une réelle corrélation entre les deux. Et l'élève va donc catégoriser cette justification pour la mettre dans accord GN, accord sujet-verbe, etc. À la fin, on peut mettre le numéro du groupe ou les prénoms des élèves pour qu'il y ait quand même aussi, encore une fois, une communication. Mais voilà, toutes ces phases-là, toutes ces composantes, tous ces éléments-là du toutis sont vraiment importants pour que le toutis soit un outil cohérent.
Alors, moi, j'ai tendance à dire que cet outil, je parle sous votre couvert, bien sûr, Catherine et Christelle, on a souvent, de la part des enseignants, souvent les enseignants qui débutent Twicté, après une première séance de production, un retour assez catastrophé, en disant que à la fois la séance a été difficile à mettre en place, difficile à organiser, que les productions ne sont souvent pas satisfaisantes. Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut imaginer cette petite règle orthographique comme un outil, mais comme aussi un objet d'apprentissage. Et derrière objet d'apprentissage, j'entends le terme objectif d'apprentissage. J'ai tendance à dire qu'un élève qui design, et j'utilise sciemment cet anglicisme, l'élève qui design parfaitement son outil, comme tu viens de nous l'expliquer, Christelle, c'est souvent le même élève qui arrive à anticiper l'erreur orthographique. Il y a une vraie corrélation entre la capacité à designer le Twicté et la capacité à comprendre la règle et à la mettre en application. Donc, j'ai envie de vous dire que jeune Twictonautes, néo-Twictonautes, si à l'issue de cette première phase, vous rendez compte que vos élèves n'arrivent pas à designer correctement les Twicté, eh bien, c'est que tout va bien. Tout va bien et c'est ce qui va vous permettre, Catherine nous parlait de progression tout à l'heure, progression pour les élèves, progression aussi pour l'enseignant et pour l'évaluation du dispositif qu'il est en train de proposer à ses élèves, puisque c'est ça qui va vous permettre de savoir de quelle façon les élèves arrivent à s'approprier le dispositif et à intégrer cette vigilance orthographique, cette capacité de révision, de relecture, on va pas dire relecture parce qu'on ne demande pas aux élèves de relire mais de réviser leurs écrits, c'est très très important. Il est aussi très important, si vous vous rendez compte que la phase de production de Twicté n'est pas satisfaisante dans ce qui vous est livré par les élèves, qu'à un moment, il puisse y avoir, mais là c'est très subjectif ce que je propose, une modélisation de la part de l'enseignant. C'est-à-dire que n'hésitez pas à proposer dans votre dispositif pédagogique des temps qui vont être des temps modélisants, qui vont permettre de donner à voir ce que peut être un Twicté canonique. Du côté de la plomberie et du côté de l'animation de communauté, pour vous aider, on a un dispositif qui s'appelle le Perfect Twicté, où on a tendance, lorsque on est mentionné bien sûr hein, dans le Twicté, on vous voit et on retweet des Perfect Twicté pour donner à voir ce que doit être cette structure canonique, elle est extrêmement importante. Dites-vous qu'au même titre que des interventions orales qui dans le cadre d'une dictée négociée ne seraient pas outillantes pour l'ensemble des élèves, il peut avoir des justifications écrites Twicté qui ne sont absolument pas outillantes. Je suis très très dur avec la balise hashtag dico, je sais qu'elle peut être utilisée, je pense qu'on peut aller plus loin dans la réflexion autour de l'orthographe lexicale qui n'est pas le plus simple à traiter, mais on a une balise qui s'appelle hashtag étymo, on a une autre balise qui s'appelle hashtag mot-famille pour les familles de mots, on a le hashtag usage lorsque vraiment on pense qu'il faut aller dans le dictionnaire. Pensez à tous ces éléments-là. Pour l'orthographe grammaticale, c'est d'autant plus vrai, vous en tant que pédagogue et en tant que didacticien, en tout cas avec les notions didactiques de l'orthographe que vous avez, pensez à tous les éléments qui sont indispensables pour écrire une justification en orthographe, dans de l'orthographe grammaticale. Il faut localiser l'erreur, apporter une justification, identifier ce qu'on appelle avec Catherine les mots signal, voilà, ou le mot signal. Voilà, il y a des choses qui sont importantes et il y a des choses qui doivent figurer pour votre élève, d'abord pour l'élève qui produit, pour qu'ils puissent routiniser cette démarche-là, mais aussi pour les élèves qui reçoivent, parce que tout simplement, quand on a des outils qui ne sont pas outillants, bah, les copains, ils font un peu la tête. Et du coup, ça décrédibilise aussi beaucoup le dispositif en lui-même. Donc là, il y a une action enseignante qui est importante en amont sur la façon dont vous allez penser cette séance de production de Twicté et en aval, en se disant s'il y a un certain nombre de Twicté qui ne sont pas outillants, comment est-ce qu'on les reprend de façon intégrée à votre séquence ou de façon plus, j'ai envie de dire, arbitraire et magistrale au moment de l'envoi du Twicté pour que ça puisse correspondre aux attentes de ceux qui sont votre classe scribe. Et là, je m'adresse à Lorraine. D'où l'importance du moment de la correction, mais ça, je le laisse pour un autre moment. Quand est-ce qu'on corrige?
Juste une petite précision, Fabien, peut-être. C'est vrai que le Twicté, finalement, met à l'écrit les stratégies orthographiques que les enfants utilisent et que même les adultes utilisent, en fait, lorsqu'ils écrivent et lorsqu'ils ont un doute orthographique. Ça permet surtout de donner beaucoup de liens avec tout ce qu'on fait en vocabulaire, en grammaire, en orthographe. Finalement, ils reprennent toutes les leçons qu'on fait plutôt traditionnellement. vraiment là, et ça donne du sens à tout ce que voilà, tout ça, ça crée du lien entre toutes les domaines d'apprentissage qu'on va travailler en fait en classe. Donc finalement, c'est vraiment mettre à l'écrit les stratégies que les adultes utilisent, mais voilà, que les enfants vont utiliser pour écrire.
Et je rebondis sur ce que tu dis. Frottez-vous aux outils en tant qu'adulte aussi. Vous verrez que c'est pas facile. C'est un travail complexe en fait d'écrire un bon toutier. Pas seulement de respecter la forme canonique du touti, parce que finalement c'est qu'un canevas et on peut faire rentrer les briques dedans, mais d'utiliser la bonne règle, d'utiliser la bonne justification, on se rend compte que c'est pas facile, que c'est pas du tout évident. Et donc si le maître s'y frotte un peu avant pour bien comprendre ce travail, qui est à la fois, hein, Fabien le disait, objet d'apprentissage et d'enseignement, vous verrez à quoi se frottent les élèves. C'est vraiment compliqué. Je pense à Rachel justement qui nous regarde en ce moment. On a fait l'exercice et on voit le travail cognitif à faire par l'adulte et donc on va relativiser pour l'élève qui, en début d'année, évidemment, qu'un élève tout seul n'aura beaucoup de mal à faire un outil canonique. Donc, comme on le disait, on modélise et le modelage là est vraiment important. La grosse digression sur le touti, donc on en était dans les étapes de tuté. Donc cet outil, ma classe va les écrire pour la classe Scribe, auquel je vais envoyer cet outil, et cette fois en public sur Twitter, puisque là il s'agit de plus avoir du tout d'erreur d'orthographe. En échange, entre guillemets, je vais recevoir de ma classe miroir les outils pour corriger les dictées de groupe et les dictées individuelles de ma classe. Et je laisse la parole à Catherine pour poursuivre.
Alors, juste avant, on a peut-être oublié de préciser quelque chose qui pose souvent difficulté pour les nouveaux Twictonautes, parce que ça nous a également posé des difficultés au début, lorsque nous commencions à entrer dans le dispositif. C'était la phase de correction, en fait, de cette fameuse dictée de départ. Parce que c'est vrai qu'au départ, moi, je sais que j'avais procédé comme ça, mes élèves, je leur avais demandé de corriger les textes des copains, mais sans mon intervention avant. De correction en collectif, on va dire, de la twictée. Ainsi, les enfants allaient corriger parfois des erreurs qui n'en étaient pas et pouvaient corriger, ne corrigeaient pas certaines erreurs. Donc, il m'a semblé important, et je pense que plusieurs twictonautes le font, c'est-à-dire qu'à la fin de la première étape de dictée individuelle, puis de dictée de groupe, de négociation, moi, je fais quand même, avant la phase de création de Twitty, une phase de correction, en fait, avec les enfants, complètement traditionnelle, où là, ça va voilà, déjà permettre de rediscuter des erreurs que les élèves ont fait dans leur dictée, mais surtout de verbaliser, de rester à l'oral, d'utiliser un code couleur, de faire référence en fait aux leçons qu'on a travaillées en classe pour justement verbaliser les stratégies orthographiques pour ne plus faire les erreurs qu'ils avaient commises. Et ça va vraiment aussi les aider, cette étape, à créer les Twitty plus facilement lorsqu'ils seront seuls face aux dictées de leur classe Scribe.
Moi, je veux bien prendre la parole parce qu'il y a quelque chose qui est assez compliqué à expliquer, mais qui, pour moi, est vraiment au cœur du dispositif didactique et pédagogique qu'on propose dans Twitty. Il y a la correction. Moi, je rejoins complètement Catherine sur le fait qu'il doit y avoir une correction qui est faite avant la phase de production de Twitty. J'irai même plus loin. J'inviterai tous les nouveaux Twictonautes à laisser la trace mémoire de cette phase de travail la plus visible possible pendant la phase de design. Encore une fois, je suis désolé, mais je tiens à ce terme-là de design des Twitty. Parce que qu'est-ce qui va se passer? L'idée, c'est pas que votre élève invente le Twitty. C'est qu'il comprenne bien et qu'il puisse construire parce qu'il routinise cet acte-là et parce qu'il va l'automatiser, que lorsqu'on veut avoir une justification sur un phénomène orthographique, qui plus est d'orthographe grammaticale, on doit aller chercher des éléments dans la chaîne syntaxique, dans la chaîne morphosyntaxique. Et du coup, c'est cette habitude-là, c'est ce balayage, c'est cette analyse qu'on veut de la chaîne morphosyntaxique. Et du coup, le fait d'avoir la correction, de se dire comment est-ce que maintenant j'ai 140 de caractère. Je design un objet qui va tenir compte de toutes les réflexions qu'on a fait peut-être la veille, l'avant-veille, il y a 3 jours, et je vais condenser tout ça, je vais le modeler, je vais le façonner de façon à ce que ce soit le plus compréhensible et le plus outillant possible pour mon petit copain qui a commis l'erreur. Vous avez bien compris que la tweeté, c'est un jeu de dupes, parce que cette erreur qu'il est en train de corriger, c'est bien souvent la même erreur qu'il a commise lui-même. Donc, je prends tout souvent cette anecdote de Régis lorsqu'il est rentré dans le dispositif, parce que à l'époque seul le CM2C pratiquait la tweeté, donc tout seul. Il a beaucoup posé cette question de cette redondance. Pourquoi corriger une erreur qu'on a déjà rencontrée? Pourquoi produire une justification écrite sur une erreur qu'on a déjà corrigée, dont on a déjà parlé, qu'on a vu et revu et revu? L'automatisation, la routinisation, la répétition de ce geste-là, c'est ça l'idée de tweeter. Et c'est parce qu'on va le voir, le revoir, le partager avec d'autres qu'on va pouvoir développer, vraiment ancrer ces réflexes orthographiques de vigilance orthographique et de balayage de la chaîne morphosyntaxique lorsqu'on parle d'orthographe grammaticale.
Donc, on est dans l'étape où on a reçu notre outil. Grâce au outil, alors là, on n'en a pas parlé, mais dans chacune de ces étapes, il y a une grande liberté pédagogique dans nos classes. Donc, on reçoit les outils et à l'aide de ces outils, alors selon vos élèves, selon vos classes, selon leur niveau, ils vont se servir de cet outil pour corriger les tuctés de groupe et leurs tuctés individuels. Alors, je dis grande liberté parce que là, par exemple, pour cette étape, ça a l'air très contraignant, mais on peut choisir de donner exactement les outils adéquats au nombre d'erreurs que l'élève a eu dans sa dictée. On peut aussi choisir de dire, je vous mets à disposition tous les outils qu'on a eu dans notre classe miroir, à vous de retrouver les bons outils pour corriger les erreurs que vous avez faites. Donc, grande liberté là aussi dans cette étape. Et on arrive à l'étape finale, si je ne dis pas de bêtises, on arrive à l'étape de qu'on appelle la tuctée transfert. Qu'est-ce que c'est que cette tuctée de transfert, Catherine? Ou Christelle, peut-être?
Christelle, si tu veux.
Cette tuctée de transfert, c'est un texte qu'on produit avec les mêmes problématiques, les mêmes types d'erreurs, les mêmes... Mais cette fois-ci, pour voir si les élèves vont transférer les corrections qu'ils ont établies sur la tuctée dans une autre dictée.
Ou on peut garder la même. Hein.
Oui, moi, on peut garder la même pour voir si... Voilà. J'en faisais une autre. J'en faisais une autre. Mais après, voilà, c'est là la liberté. C'est là qu'on a toute cette liberté-là. Une autre avec les mêmes problématiques, les mêmes types d'erreurs et qui va reprendre même des fois même le même mot compliqué sur lequel on avait pu buter pour voir si les élèves vont transférer ce qui s'est dit, ce qui s'est fait pendant la tuctée.
Moi, j'apporterai une troisième piste, c'est que tout dépend des élèves. C'est-à-dire que soit on peut construire une nouvelle dictée transfert, une nouvelle tuctée transfert en 140 caractères pour ceux qui pourraient se confronter à ce nouvel exercice. Et puis pour les plus insécurisés, parce que c'est aussi là l'une des origines de la tuctée, c'est de pouvoir développer le sentiment de sécurité d'un apprenant et de compétence face à ce système extrêmement complexe qui est celui de l'orthographe en français, et bien lui proposer la même tuctée qui va permettre de faire le point avec lui sur quelles sont les acquisitions qui ont été faites grâce à cette séquence et quels sont les points de fragilité orthographique qui caractérisent cet apprenant. On retombe sur l'évaluation positive. Hein. On est clairement sur un dispositif diagnostique et formatif dans lequel on associe l'élève et qui ne se contente pas d'une remarque ou d'une note. C'est un vrai challenge qui nous permet de dresser le profil orthographique de chaque apprenant.
Donc voilà pour les étapes de la tuctée. Pour ceux qui suivent le direct et qui sont débutants, je pense notamment encore une fois à Rachel, qui je les imagine derrière leur écran, vous savez, en FaceTime, à se dire oh, « je comprends pas, il se dit trop de choses ». Tout ce qu'on dit là, vous allez retrouver plein d'outils, plein de documents qu'ils disent sans doute mieux que ce qu'on fait à l'oral, notamment des infographies sur le site tuctée.org où il y a vraiment tout et ça permet la transition idéale, si ça vous va, pour passer au cinquième point, les outils pour le tuctonaute. Je parlais de tuctée.org. On a peut-être dans l'ordre le premier, vous me direz si vous êtes d'accord, vous pouvez en dire quelques mots, le premier document sur lequel il faut se lancer, c'est le fameux Kezako.
Oui, que Bruno Mallet a donc mis à disposition de tous les tuctonautes, et c'est vrai qu'il reprend beaucoup de questions que nous nous sommes tous posées au début en essayant de prendre en main le dispositif qui paraît au début voilà, assez compliqué et assez complexe. Donc, il a regroupé toutes les questions que les Twitchtonautes pouvaient se poser et donc, il y a également répondu. Donc là, c'est vraiment une mine pour voilà, des néo-Twitchtonautes. Voilà, si vous voulez vous lancer, allez regarder le Kezako de Bruno Mallet qui reprend vraiment beaucoup, beaucoup de questions qu'on peut se poser en débutant.
Ouais, et qui met à jour régulièrement en plus. Donc, c'est
vraiment le... Alors, j'ai envie de prendre un petit peu cette phase-là à l'envers et de vous proposer, puisque c'est ce qu'on vit souvent dans l'animation de la communauté, une espèce de simulation. On dirait qu'on est des gens qui veulent s'inscrire à la Twicté. Est-ce que peut-être on peut reprendre cette démarche-là? Est-ce qui va nous permettre peut-être, au-delà de ce document fondamental dont vous avez parlé, qui est le Kezako et qui recense toutes les questions et toutes les réponses, on a tendance à dire même les questions que vous n'avez pas que vous ne vous êtes pas encore posé, est-ce qu'on peut imaginer reprendre, voilà, comment est-ce qu'on s'inscrit et qu'est-ce qui se passe après? Vous voulez bien faire ça?
Allez, c'est parti.
Allez, Régis.
Régis, tu es Rachel, si j'ai bien compris.
Je suis Rachel et je veux m'inscrire. Je veux m'inscrire à Twicté. Comment je fais? Je crois que la première étape, c'est de m'inscrire dans le fameux document inscription. Mais comment je trouve ce document?
Alors, je pense que le plus simple, le réflexe de base, c'est de se dire que on a un site qui est extraordinairement bien architecturé. Je dis ça parce que ça me permet de rendre hommage à Régis qui est là. Il va pas aimer, il va rougir, mais il y passe beaucoup de temps. Nous, on tient vraiment compte des besoins qui sont exprimés à la fois par les masters ou les experts tweetés, mais aussi les néo-twictonautes pour vous donner un maximum de lisibilité. Donc, j'ai envie de vous dire que, comme pour n'importe quelle démarche en ligne, le bon réflexe, c'est de taper dans votre navigateur préféré, Twicté, et vous allez normalement, Régis, tu me confirmes, hein, où je parle sous ton couvert, arriver sur le site www.twicté sans accent aigu et avec une minuscule .org. À partir de là, vous avez une série d'onglets qui vous sont présentés, je reprends peut-être le site devant moi, vous avez Twicté accueil, participer en classe en ce moment, contribution, ressources, formation et pressbook. Vous allez dans l'onglet participer. Et dans l'onglet participer, vous avez un premier article qui s'appelle « Comment participer à la Twicté ». Jusque-là, tout va bien. On vous décrit la démarche. On vous explique bien évidemment qu'il va vous falloir créer un compte Twitter et vous allez rapidement tomber sur un lien qui s'appelle « Compléter le document inscription ». Alors, je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux, le document inscription. Je peux peut-être continuer à en parler.
Vas-y, je l'ai sous les yeux. Mais...
L'idée, c'est on peut alterner aussi hein, pour que ce soit plus dynamique pour nos auditeurs. Donc, dans ce document inscription, vous avez toutes les consignes pour le remplir qui vous sont présentées dans une première partie. On vous rappelle les documents dont la lecture est essentielle et on revient sur le Kezako dont vous parliez tout à l'heure. Il y a une charte du Twicktonaut aussi parce que c'est un dispositif où il nous faut un minimum de conditions générales pour que ça ne soit pas trop le bazar. Donc, on vous demande de bien vouloir le lire, mais ça se passe très, très bien. Vous avez aussi des liens qui sont peut-être pas souvent utilisés, mais qui servent, je pense, en tout cas qui, moi, me servent énormément, qui sont les liens vers les équivalents système scolaire québécois et belge notamment, puisque les plus grosses communautés francophones hors hexagone viennent du Canada francophone ou de la Belgique. Donc ça permet de vous situer aussi. Et puis, bien après, on vous invite à remplir les différentes colonnes, votre prénom, votre nom, vos deux comptes Twitter, c'est très très important. Et là, Régis, je te laisse peut-être la parole sur pourquoi nous enquiquiner avec deux comptes Twitter, nous qui commençons dans Twitter.
Ouais. Alors, il y a clairement un compte personnel et un compte classe parce que le compte classe, il est dédié uniquement aux travaux de classe, aux élèves. Au-delà même de Twicté, hein, si vous avez déjà une Twicté classe, vous savez de quoi je parle. Mais si vous entrez sur Twitter par la Twicté, le compte classe, il sert uniquement aux élèves, par les élèves, pour les élèves, avec les élèves. Tout ce qui est communication extérieure, nous, on passera, nous et peut-être vous-même, par votre compte personnel. Donc, c'est vraiment important. Et c'est vrai que cette question, elle revient souvent. Pourquoi deux comptes? Ben parce que c'est un compte pour les élèves et un compte pour vous-même. Il n'y a pas de raison que les élèves suivent la communication extérieure. Et vous verrez que de toute façon, si vous n'avez pas de compte perso, ça viendra très vite parce qu'il y a une folle communauté sur Twitter, notamment les Twicktonautes, mais pas que, pour apprendre plein de choses et pour faire votre veille institutionnelle et personnelle même. Donc, deux comptes indispensables.
Souvent, on n'a pas envie que les élèves rentrent dans les salles des maîtres. On a envie de vous dire que c'est un peu c'est cette métaphore qu'on emploie, nous, pour Twicté, hein, avec un compte classe auquel vos élèves peuvent avoir accès Tout dépend de comment vous l'utilisez en classe, hein, pour faire de la veille, pour bien, on n'a pas envie que les élèves soient forcément au courant de tout ce qui se dit, puisqu'on a des discussions aussi d'adultes, dans tous les sens du terme, hein, qui se font en DM ou sur les fils. Donc, n'utilisez pas votre compte classe pour communiquer dans toute la dimension organisationnelle de Twitter, notamment lorsque vous communiquez avec les plombiers en DM.
Ouais. Voilà. Donc j'ai bien rempli toutes les colonnes, j'ai mis mon nom, mes deux adresses. Qu'est-ce qu'ils font les plombiers avec ce que j'ai donné comme information ?
Alors ils vont valider ton inscription, Régis. Il y a une dernière colonne qui est une colonne qui est la colonne K, pour laquelle on vous dit qu'elle est réservée aux plombiers. Donc quand les plombiers vérifient que les comptes que vous avez donnés sont actifs, que l'adresse correspond bien à une adresse d'école pour de vrai, qu'on a bien ciblé votre niveau de classe, eh bien on vous inscrit dans une team et à partir de là sur le fil Twitter, le vôtre, celui de votre classe, vous recevez un message de bienvenue qui commence souvent par tweet.com et qui vous signifie que vous êtes bien inscrit à la tweetée. Et c'est là où il y a une petite, même une grosse nuance à apporter, c'est le paradigme de la salle de gym.
Alors, vous êtes bien inscrit, ça veut dire que vous comptez participer à tweetée. À vous d'activer cette participation via le doc participation, justement, pour une tweetée, la tweetée qui est en cours ou la tweetée à venir. C'est-à-dire que une fois que vous êtes inscrit, ça ne veut pas dire que vous participez. On a acté de votre participation, de votre envie de participer à Twitter. Il y a un autre document. Les liens vous arrivent par Twitter, mais vous les retrouvez aussi sur le site dans l'onglet « En classe en ce moment » qui vous donne le lien donc, vers un autre document qui s'appelle le document participation qui, lui, est affecté à chaque Twitter. Par exemple, la prochaine Twitter, là, on est dans la Twitter 16. Donc, vous avez eu un document participation à la Twitter 16. Et là, vous allez juste mettre un petit 1 ou un petit 0 ou rien pour acter. Si vous mettez un 1, ça veut dire que nous, on va prendre en compte votre participation active à cette tuctée. Si vous ne mettez rien ou si vous mettez un 0, ça veut dire que pour cette tuctée, vous avez choisi, par exemple, de ne pas participer ou peut-être que vous avez oublié de le remplir, tout simplement.
C'est vrai que c'est très important ce petit 1 parce que c'est vrai que pour les plombiers, ça leur permet de nous attribuer une classe crible et une classe miroir. Sans ce petit 1, vous ne pouvez pas participer en... Voilà, il y a une grosse cartographie à réaliser par les plombiers et ainsi ça leur permet voilà, de pouvoir nous mettre en trinôme de manière plus simple.
Il y a une petite subtilité sur ces docs participation. Je pense que beaucoup de Twictonautes qui nous écoutent en ce moment s'y sont confrontés, sont des feuilles de calcul hein, qui sont générées par l'espace de travail collaboratif de Google et qui nous permet, comme dans n'importe quelle feuille de calcul, de verrouiller certaines plages. Et en fait, il n'y a que cette colonne dans laquelle vous allez écrire 1 ou 0 qui vous est accessible en écriture. Tout le reste est verrouillé. Pourquoi ? Parce que certains Twictonautes, néo-Twictonautes, n'avaient pas bien saisi ce processus de je m'inscris à la salle de gym et après pour chaque trimestre je vais valider ma participation par exemple et du coup ils rentraient les renseignements directement sur les colonnes du doc participation de nom prénom. Non, si vous êtes inscrit à la tweetée et que vous avez reçu le message de validation sur Twitter, vous devez retrouver la ligne qui correspond dans le doc participation de votre team dont vous parlez tout à l'heure Régis et qu'on retrouve dans le en ce moment en classe sur le site www.twitter.org.
Donc vous êtes inscrit, vous avez validé, je me suis inscrit, j'ai validé ma participation, on va dire pour la prochaine tuctée qui est la tuctée 16. Catherine le disait, on va vous associer une classe scribe et une classe miroir, c'est-à-dire ce fameux tridôme dont on parlait tout à l'heure. Vous allez le retrouver où ? C'est où je retrouve cette information ?
Alors les plombiers nous envoient un message par tweeté officiel. Ne pas oublier surtout d'activer les notifications tweeté officiel sur Twitter pour avoir toutes les infos de dernière minute. Ça nous permet de suivre voilà, au mieux sans aller forcément sur le site tweeté.org. Donc là, les plombiers nous disent « ça y est, la cartographie est sortie ». Donc vous pouvez cliquer sur cette cartographie avec un lien direct via Twitter ou via le site. Et là, vous allez pouvoir, en ciblant votre team, voir avec qui vous allez échanger durant la tweetée.
Alors, on a même simplifié encore hein, le processus avec la cartographie qui posait souvent des problèmes. Donc là, vous retrouvez encore plus simplement que ça, soit la cartographie, parce que vous allez voir que c'est un bel aspect motivationnel pour les enfants, pour les élèves de voir avec quel coin de France ou du monde, hein, francophonie, avec lesquels ils travaillent, ou alors un simple tableau, de nouveau Excel, où vous allez voir vos classes cribles et classes miroirs. Ben là, c'est le moment d'entrer en contact avec les enseignants de ces classes pour se synchroniser, et bien que chacun prenne conscience d'avec qui il travaille et être sûr que vous allez être, comment dire, pas sur la même longueur d'onde, mais sur le respecter ensemble le fameux calendrier. Un mot du calendrier ?
Ça, c'est donné. Un calendrier qui vous est donné à titre informatif. Voilà, c'est une espèce de cadre de liberté qu'on vous offre en vous disant avant telle date, ce serait bien de pouvoir respecter telle étape de la tuitée. Il est donné, on le redit, hein, de façon informative. Et il y a la seule chose qui est importante dans ce dispositif, une fois que vous connaissez vos classes partenaires, Scribe et Miroir, c'est de communiquer, et j'ai envie de dire encore communiquer. C'est-à-dire que tout va pouvoir se faire avec énormément de souplesse. Il y a en général 3 semaines de battement entre chaque tweetée, à vous d'établir le calendrier qui conviendra le mieux à votre partenariat en communiquant, encore une fois, hein, avec le collègue. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite. Je pense qu'à un moment, il faut peut-être une des contraintes du dispositif, c'est qu'il faut une certaine présence sur Twitter. Elle est toute relative. Mais, Catherine parlait tout à l'heure des notifications. Si on s'inscrit, qu'on a une classe et puis qu'on retourne sur Twitter peut-être 2 semaines après, c'est là où ça génère peut-être un petit peu d'angoisse de la part d'une classe partenaire qui ne recevrait pas de réponse, qui ne recevrait pas de tweet. Donc, pendant une durée de tweeté, au moins pendant une durée de tweeté, après, c'est promis, vous pouvez couper votre Twitter. Essayez de bien suivre le collègue et de regarder au moins chaque jour pour savoir où en est l'avancée de votre travail en commun.
Il y a un superbe document, je me permets, il y a un superbe document qui résume tout ce qui vient d'être dit, qui est la feuille de route du Tweetonaute, qui est donc sur le site, enfin, on devait en parler, mais tout ce qui vient d'être dit là est dit sur la feuille de route du Tweetonaute. Si jamais, de mettre les notifications push, de tout ce qui se passe avant, pendant, après. Et pour ça, ce document est un vrai outil quand on démarre.
Ouais, si vous avez peur de rater la moindre étape, on a vraiment là essayé de détailler tout jusque dans les micro-détails, donc normalement, vous ne pouvez rien rater avec ce document.
Alors, c'est dans l'onglet, je précise, merci Christelle hein, pour toi cette précision. Ça se trouve dans l'onglet qui s'appelle « Kit de démarrage ». Vous le retrouverez, enfin, c'est plutôt un menu « Kit de démarrage », je sais pas, une page « Kit de démarrage » qui se retrouve dans l'onglet, pardon pour cette problème de sémantique, dans l'onglet « Ressources et formations ». Donc, dans « Ressources et formations », allez dans « Kit de démarrage » et vous retrouverez, entre autres, cette infographie qui va vous guider pas à pas dans tout ce qu'on est en train de vous dire.
Donc, j'ai ma classe Scribe, j'ai ma classe Miroir, j'ai pris contact avec les enseignants, on est bien tous synchronisés, on connaît à peu près le calendrier, on s'est mis d'accord sur tout ça. Ben là, j'ai envie de dire, la suite, on vous l'a dit tout à l'heure, c'est les fameuses étapes où vous allez faire votre dictée en classe, où vous allez faire votre dictée négociée, vous allez envoyer les outils. Ça, on en a parlé tout à l'heure.
Et puis, il me semble que sur le fonctionnement, on est plutôt pas mal, hein ?
Bah oui.
Je vois que tu as eu la présence d'esprit de chronométrer ce webinaire, Régis. Il nous reste une dizaine de minutes.
Ouais, merci.
J'ai envie de dire que ça serait peut-être le moment pour les questions. Donc, vous qui nous suivez sur YouTube, on va élargir, hein, puisqu'on voit que sur Twitter, vous êtes actifs aussi. N'hésitez pas, c'est peut-être le moment à poser maintenant les questions. On va vous laisser un petit moment et puis peut-être que nous, on va réfléchir aussi aux questions qu'on a pu se poser ou qu'on voit revenir souvent de la part des néo-tweetonautes.
Notamment celle de la composition des groupes. On en reparlait récemment. Une question qui revenait souvent et qui vient souvent quand on démarre, c'est par exemple sur la composition des groupes. Est-ce que je fais des groupes de niveau ? Est-ce que je mets mes élèves par affinité ? Ou comment je compose mes groupes ? Voilà, ça je sais que c'est une question qui revient souvent. On peut peut-être…
Alors, plein de pistes, hein, je prends la parole, peut-être Catherine, tu enchaîneras. Plein de pistes, il y a déjà peut-être la piste du groupe fonctionnel. On se rend compte assez vite des groupes qui dysfonctionnent ou qui fonctionnent mal. Un indice, par exemple, tout simple, c'est de dire quel est le pourcentage de réussite à la tuité de groupe par rapport au tuité individuel de chaque élève. Si là, on voit que c'est les erreurs qui s'accumulent, c'est qu'il y a un problème dans la négociation ou que le groupe dysfonctionne. Si, par contre, déjà là, le résultat est meilleur, ben, c'est déjà un bon indice pour dire que ce groupe fonctionne plutôt bien. C'est un exemple de piste. Hein. Catherine, peut-être autre chose ?
Oui, oui, moi, je fonctionne plutôt en groupe hétérogène, justement, pour que les élèves, en effet, puissent s'apporter les uns les autres. Et puis, voilà, après, ça peut être aussi parfois des groupes plutôt plus homogènes. Ça dépend, il y a une grande liberté, une grande souplesse pour les enseignants de gérer comme ils le souhaitent ces fameux groupes.
Après, par rapport à cette notion de groupe, la recherche nous donne quelques indicateurs par rapport à ce choix-là et nous dit que quand un groupe ne fonctionne pas ou que des élèves, un élève parle plus qu'un autre, il faut aussi laisser le temps de s'installer au niveau de ce groupe. Parce qu'en fait, il faut déjà que le groupe se connaisse un minimum. Donc, il faut qu'ils aient déjà fait une tweaktée. Il ne faut pas hésiter à leur en faire refaire une autre parce que pour qu'un groupe fonctionne, il faut que chacun puisse donner un petit peu de lui, en fait, et que chacun connaisse les spécialités de chacun. Si on ne teste qu'une seule fois et que ça ne marche pas la première fois, il faut également que le groupe ait des repères. Et pour qu'il se repère, il faut qu'il se connaisse. Pour qu'il se connaisse, il faut qu'il travaille plusieurs fois ensemble. Donc, il faut aussi que le groupe se fasse. Et ce n'est pas en une seule fois que ça pourra être le cas.
C'est très évolutif. Hein,
alors, encore une fois, hein, sur la question du travail de groupe, pensez à la façon dont vous travaillez avec vos collègues et la façon dont l'efficacité de groupe se construit, elle ne vient pas dans un premier temps. Une question de Cynthia sur Twitter. On en a parlé un petit peu avant, Cynthia, donc on t'invitera à reprendre, une fois que la vidéo sera mise en ligne sur YouTube, le début. Classe Scribe, classe Miroir, une bonne fois pour toutes, Régis, est-ce que tu peux réexpliquer de façon synthétique ?
Voilà, très simple. On fonctionne par trinôme et chaque enseignant a une classe scribe, c'est-à-dire c'est la classe qui va écrire les tuyautés et lui envoyer. Scribe, écrire. Sa classe miroir, c'est celle qui va réfléchir, hein, jeu de mots sur miroir, c'est de là que ça vient, qui va réfléchir et écrire les tuyautés et à laquelle donc j'envoie mes tuyautés. Donc il y a ce double jeu. La classe scribe m'envoie ses tuyautés et moi j'envoie mes tuyautés à ma classe miroir.
Je tiens à compléter sur les associations, puisqu'on nous pose souvent la question. Les associations entre les classes sont faites souvent pour vous permettre de vous retrouver entre ce qu'on appelle nous des experts, c'est-à-dire des twictonautes qui ont déjà pratiqué plusieurs twictées, et ce qu'on appelle des noobs, bah, c'est peut-être vous, hein, le prochain twictonaute à faire sa première twictée. Donc pensez que vous êtes bien associé à des partenaires qui ont de l'expérience. Donc en général, sur ce trinôme, hein, puisque c'est une chaîne, c'est un expert, un noob, un expert, un noob, un expert, un noob, etc., etc. La colonne de gauche sur le document inscription avec votre ordre d'inscription nous permet d'avoir cette information. Alors, je regarde sur Twitter, pas d'autres questions. Et sur YouTube non plus. Donc on y va pour nous, la question bonus. Ah, alors oui, bien sûr, on a Franck. Salut Franck, très heureux de voir ton message. Alors Franck nous demande, est-ce qu'on pense à une version en anglais ? Moi, je veux bien faire cette réponse. On s'est déjà posé la question. On s'est déjà posé la question, notamment avec English for School, que vous connaissez bien, et avec Romain. En fait, en France, c'est compliqué d'appliquer le modèle puisque le métalangage orthographique n'est pas au programme. Donc, la Twictation, qui serait la version anglaise, telle qu'elle, ne peut pas être appliquée en école élémentaire ou dans le secondaire. Je sais que toi, tu arriveras à t'y retrouver. Il y avait quelque chose qui avait été proposé par Romain, c'était peut-être de reprendre des tweets de stars en anglais qui souvent commettent des erreurs d'orthographe. Donc ça pouvait être une piste envisageable. Voilà.
Bon, s'il n'y a plus d'autres questions…
Oui, Sébastien, pardon, c'est Sébastien Franck que j'ai réalisé après. Hein. Excuse-moi Sébastien, c'est l'émotion.
Le thème.
Je me fais demander…
On va gentiment se diriger vers la fin pour pas prolonger trop. Je crois qu'on est à une heure là. C'est bien si on arrive à se maintenir là. On est bien. Alors, on vous encourage surtout à réécouter. Hein. On vous mettra une version audio en plus de la version YouTube. Et on me dit dans le chat, et c'est vrai, comme toujours, parce que là, c'est vous voyez nos têtes. Mais le dispositif, c'est justement vous tous. C'est tous les twictonautes. Là, je vois, il y a Romance, il y a Jérémy, qui font tout le travail là de... Sur le flux Twitter, on tweet en direct. C'est tous les tuctonautes, la tuctée. Donc là, on vous présente les choses, mais c'est enrichi perpétuellement par chacun d'entre nous, chacun d'entre vous. Oui, Fabien, lève le doigt, tu peux causer, bien sûr.
C'est important hein, ce que tu dis, parce qu'on a un tweet de Sid Fillmore qui nous dit que l'important, c'est de remettre l'humain au centre de la tuctée, qui est un outil par en soi. Ben justement, on parlait tout à l'heure pas seulement de la dimension des apprentissages du côté élève, mais des apprentissages du côté des enseignants. Combien d'entre nous ont réussi à prendre en main des solutions numériques, ont compris des nuances pédagogiques, où on fait évoluer le dispositif dans leur classe, parce que tout ça, c'est avant tout de l'humain. C'est une communauté qui compte plus de 350 enseignants, j'ai envie de dire, qui sont chacun actifs en fonction de leur degré d'engagement, en fonction de leur disponibilité personnelle sur le moment, de l'envie de s'engager. On l'a dit, hein, c'est extrêmement modulable. Voilà, c'est d'abord, j'ai envie de dire que c'est, mais ça, c'est ce qu'on dit souvent, hein, la tuité, c'est d'abord de l'humain et après tout ce qui nous permet de rendre ce dispositif encore plus humain.
La première chose qu'on dit à ceux qui veulent se lancer, c'est lancez-vous et vous verrez comment vous allez être porté par la communauté qui est chaleureuse, accueillante, qui tout le monde est toujours là, prêt à répondre aux questions. J'ai envie de dire, et c'est vrai, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Donc vraiment, quand on se lance et qu'on n'y connaît rien, ben vous êtes vraiment pris par la main par les tuctonautes. Et c'est génial, j'ai envie de dire, parce que c'est quelque chose d'énorme, en fait, cette communauté-là qui fait vivre le dispositif au jour le jour.
Régis, pour finir de façon un peu classique, je vais te demander à toi et à Catherine et Christelle qui nous ont fait le bonheur de nous rejoindre pour ce premier webinaire, où est-ce qu'on peut retrouver Tuicté?
Alors, la première chose, c'est @tuictéofficiel. Donc là, comme dirait Fabien à chaque instant, comment on dit, les push notification, si vous êtes inscrit, ça va vous permettre d'avoir les infos en temps réel. Donc on le retrouve là et on le retrouve sur tuicté.org. On va dire que c'est les deux grands points d'entrée. Vous retrouvez la communauté Google+, vous retrouvez la communauté sur Facebook, vous retrouvez la communauté sur Via Educ. Donc, vous ne pouvez pas rater Tuicté, en fait. Ce n'est pas possible, Fabien.
Non, on ne peut pas. Et puis, le site. Hein.
Oui, je l'ai dit.
Ok, mais c'est parce que je faisais autre chose en même temps. Pardon. Vous ne pouvez pas nous rater, effectivement. Et nous, on n'a pas envie de vous rater. Donc, on espère vous retrouver très, très vite dans le dispositif. En tout cas, n'hésitez pas. Sur les webinaires, Régis?
Sur les webinaires, bah, prochain webinaire, je ne sais pas. On verra. On va voir déjà à quel point il vous sera utile, celui-ci. Donc, n'hésitez pas à nous faire le retour, même si vous ne l'avez pas vu en direct. Surtout, si vous ne l'avez pas vu en direct. Donc, à quel point il est utile et peut-être nous proposer des thèmes pour les suivants. Nous, on pensait, grosso modo, un par période, mais à réfléchir avec tout le monde, en fait.
Et en fonction de des besoins des Tuictonautes, encore une fois.
Bon.
Ben, on se fait des bisous.
On se fait ça comme ça.
Comme d'hab. On redit encore que vraiment ce dispositif Tuicté est avant tout une formidable aventure humaine entre tous les Tuictonautes enseignants et également les enfants. On apprend beaucoup, tous, les uns des autres. C'est extrêmement motivant pour les enfants, mais également beaucoup pour les enseignants. De par tous ces échanges, tout le monde peut compter les uns sur les autres. Beaucoup d'idées, beaucoup de choses très intéressantes à creuser, beaucoup d'échanges avec les enseignants du secondaire. Beaucoup de choses formidables sont créées par tous les Tuictonautes. Donc, c'est vrai que, voilà, si vous êtes motivés, venez nous rejoindre.
C'est ça. Pour les prochains webinaires, c'est pas nous qui bosserons, hein. Bien sûr, on mettra des spécialistes sur le coup puisque c'est toute une communauté. Dernier mot, merci à Romance, merci à Sébastien, merci à Jérémy qui était là et qui ont fait aussi l'animation de communauté sur Twitter, qui nous ont permis de retweeter, ce qui nous a permis d'être plus focus sur ce webinaire.
Bon, j'ai envie de faire le signe bye bye. Merci à tous. Il est contagieux, je sais. Ben, on se dit à bientôt pour le webinaire numéro 2. Ce sera sans doute pas nous, et peut-être vous. Donc, lancez vos propositions. Merci Catherine, merci Christelle, merci Fabien.
À bientôt.
Et merci à vous derrière les écrans. Ciao, ciao.